les jardinières.
C'est le dernier moment pour profiter de l'été. Dès demain, place à l'automne, ses couleurs incroyables, les courges et les champignons. Mais ce n'est pas parce qu'on change de saison qu'on doit délaisser son jardin. Soyez les bienvenus chez les jardinières. Bonjour Brian.
Mais bonjour Mylène.
Ce matin, nous recevons Jordi González, horticulteur et producteur de plantes vivaces et de plantons de légumes à Neuchâtel. Bonjour Jordi.
Bonjour Mylène, bonjour Brian. Merci de me recevoir pour cette édition matinale et presque automnale.
Jordi, vous et Rebecca Luchinger avez récemment repris les rênes du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Et c'est un plaisir de vous recevoir chez les jardinières.
Merci.
Et bon réveil. Et c'est parti pour une heure de jardinage.
7h, 8h. Les jardinières.
Le mois de septembre est déjà bien entamé et puis l'été est presque terminé, en tout cas selon le calendrier, enfin aussi selon les températures extérieures. Mais le jardin a toujours besoin de soins du coup. Jordi, qu'est-ce qu'on peut faire au potager ces prochains jours ?
Alors oui, c'est vrai qu'on rentre dans l'automne, on peut commencer à ranger notre jardin pour le début de l'hiver. Il ne faut pas oublier d'arroser encore les légumes qui restent. On peut couper le haut des tomates pour aider les derniers fruits à mûrir. On peut aussi planter fraisiers, framboisiers maintenant. On peut continuer à planter des vivaces comme le thym, les échinacées, bien d'autres. Et c'est aussi le début de la plantation des bulbes.
Les fameuses fleurs qui ressemblent à des oignons, enfin, avant de pousser.
Exactement.
Merci beaucoup Jordi, vous êtes notre invité jusqu'à 8h et vous prendrez le temps de répondre aux questions de nos auditeurs, toujours trois possibilités pour nous joindre. La première c'est par téléphone au 0901 70 20 20 et vous aurez la chance de poser votre question en direct à notre spécialiste. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site et joindre une photo à votre question. C'est sous l'onglet émission questions aux jardinières ou alors vous pouvez nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Dans quelques minutes, Jordi nous parlera d'un arbre venu du pourtour méditerranéen et qui offre des fruits savoureux, le figuier. On se retrouve après un petit peu de musique.
7h, 8h, les jardinières.
On parle de figuier ce matin chez les jardinières en compagnie de Jordi González, horticulteur à Neuchâtel. Est-ce que cet arbre venu du pourtour méditerranéen peut facilement vivre dans nos régions ?
Alors oui Mylène, on peut le trouver facilement en plaine, sur le littoral jusqu'à 800 mètres d'altitude à peu près, sans difficulté. Après, plus haut, ça devient un petit peu plus compliqué. On a quand même un ou deux cas jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Des fois, ça marche très bien, d'autres moins. On a la possibilité de le mettre en pot si vraiment. Là, il faudrait choisir plutôt des variétés qui ont un plus faible développement. Je peux en citer deux, le dalmatie ou le pastillère.
Et puis, pour choisir un figuier, il faut avant tout connaître les termes bifère et unifère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un figuier bifère et un figuier unifère ?
Alors, on peut commencer par l'unifère, qui, comme son nom l'indique, donne une récolte de figues par année sur le bois de l'année en cours. Lui, le bifère, il va donner deux récoltes de figues par année. La première, qu'on appelle les figues fleurs, qui, elles, seront sur le bois de l'année précédente. Et la deuxième qui s'appelle les figues d'automne, qui elles sont sur le bois de l'année en cours. Faut savoir que dans nos régions, particulièrement un peu plus haut, l'unifère il est beaucoup plus adapté à la culture parce qu'il va donner des figues une seule fois sur le bois de l'année. Il sera pas sensible aux... enfin, les figues seront pas sensibles aux gelées en hiver, ce qui n'est pas le cas pour les bifères, et que la deuxième récolte chez les bifères, elle intervient souvent plus tard que la récolte des unifères. Donc ça pourrait venir pendant les premières gelées de l'automne aussi.
Et puis chez les figuiers, il y a des figuiers auto-fertiles. Est-ce que ça joue un rôle ? Est-ce qu'on peut avoir un figuier auto-fertile bifère et ou un unifère ? Ou bien c'est... C'est compliqué cette question.
Hein. Oui, non, mais je crois que j'ai compris. Mais en fait, c'est une bonne question, mais ça ne change pas grand-chose. Le truc avec l'autofertilité, c'est que c'est un figuier qui va pouvoir donner des figues sans avoir recours au pollinisateur, qui est le blastophage, ou au figuier mâle. Ça n'a pas de goût différent en soi, et c'est cultivé en autofertile dans la plupart des régions, même dans les régions originaires du figuier.
Et du coup, est-ce que les fruits qui donnent... vous avez dit ils ont les mêmes goûts. Du coup, quel est l'avantage d'avoir justement un figuier auto-fertile ?
Voilà, le gros avantage du coup d'avoir un auto-fertile, c'est que justement, ils ne sont pas dépendants de ce blastophage. C'est le pollinisateur des figuiers. C'est une petite guêpe qui ne vit pas en dessus de la latitude de la ville de Lyon en France. Il n'y a pas d'inconvénient à avoir un auto-fertile à proprement parler.
Et puis, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de figuiers auto-fertiles qu'on croise dans nos régions ?
Alors, oui, je peux en donner quelques-uns. J'aurai la ronde de Bordeaux, par exemple. C'est une petite figue rouge, c'est un figuier unifère. La figue, elle est très aromatique et l'arbre a un grand, grand développement. On a le pastillère que j'ai cité avant, c'est un arbre à plus faible développement. C'est aussi une figue unifère, elle est plus grosse que la ronde de Bordeaux. Elle a une peau qui est, je dirais, violet clair. Et très robuste, elle est très bien. On a aussi le Fioronne, qui elle, est une variété bifère, où on aura des figues vertes. La première récolte de figues sera généralement plus grosse que la deuxième. Enfin, en quantité de récolte, mais la figue elle-même sera plus grosse. C'est un gros arbre, très rustique. Et chez nous, au jardin, il donne en quantité chaque année. Et après, pour finir, je vais parler du figuier Jardin des Senteurs. C'est l'incontournable du jardin. Il est spécial. Il a été planté par le grand-père de notre prédécesseur, donc il y a environ 80 ans. Il a gelé complètement dans les années 50, donc il est reparti depuis le bas, vraiment. Et il a ce nom-là du jardin parce que le nom a été perdu au cours des années. On ne sait pas exactement quelle variété c'est.
Et celui-là, on ne le trouve que chez vous ?
On le trouve chez nous et puis dans les jardins de nos clients parce qu'on le vend assez souvent.
Et Jordi, est-ce que l'automne, c'est la saison idéale pour planter un figuier chez soi ?
Alors l'automne, c'est la saison par excellence pour planter des arbres fruitiers ou bien des petits fruits. Ça marche aussi pour le figuier, en tout cas pour ce qui est la région de plaine ou le littoral. Si on va plus haut, j'attendrai presque le printemps, dès la mi-avril, quand les grosses gelées sont écartées.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, chez les jardinières, nous parlons de figuiers avec notre invité Jordi González, horticulteur à Neuchâtel. Jordi, nous allons parler un peu de la plantation. Vous venez de nous dire que c'était la saison, l'automne, pour les planter. On va aussi parler de l'entretien des figuiers. Alors tout d'abord, dans quel type de sol est-ce qu'on peut planter un figuier ?
Alors le figuier, il s'adapte très bien à n'importe quel type de sol. C'est assez incroyable, mais voilà. Il a une préférence pour les sols calcaires qui sont plutôt légers et assez fertiles, mais il va aussi s'adapter dans un sol qui est acide, dans un sol qui est lourd. Il aura juste un petit peu plus de mal à se développer, mais en soi, ça va aller.
Et puis, on le plante où alors quand on a décidé d'acheter ce figuier ? Et puis, il a besoin de quoi ? Plutôt beaucoup de soleil, pas trop de soleil ?
Alors, le figuier, il aime le soleil, donc on va essayer de lui réserver un emplacement au jardin qui a une bonne exposition bien ensoleillée. On évite le plus possible les couloirs de vent froid, comme la bise ou bien le joran. On va aussi pouvoir le mettre un petit peu... Enfin, en plaine, ça marche aussi, mais voilà, plus haut, c'est mieux. Contre un mur, pour que le mur il capte la chaleur de la journée et puis qu'il puisse la restituer la nuit. Et si le figuier il est en dessus d'une nappe phréatique, par exemple, il va réussir à certainement percer la nappe phréatique et aller chercher de l'eau directement dedans, ce qui va lui permettre de se développer très très vite.
Et puis niveau place, il a besoin de quelle place le figuier ? Faut compter quelle hauteur, quelle largeur ?
Mais alors ça dépend un petit peu de la variété choisie. Il y a des variétés qui ont un faible développement, qui vont faire jusqu'à 2 mètres, 3 mètres de hauteur maximum. Il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à 4-5 mètres. Et puis pour la superficie, on va dire, il faut compter en tout cas entre 3 et 4 mètres, voire même plus pour certains développements d'arbres.
Et puis, si notre figuier, il est en pleine terre, justement, est-ce qu'il faudra le protéger durant l'hiver ?
Alors, un figuier, même si c'est un arbre qui vient du sud, en fait, il est très résistant au froid. Et une branche de l'année, elle peut supporter presque jusqu'à moins 10. Ça dépend toujours de l'emplacement, de l'hygrométrie, de la durée du gel, par exemple. Mais en général, ça supporte très bien. Donc, en pleine, il n'y aura vraiment pas besoin, ni en pot, ni en pleine terre, de protéger le figuier. Plus haut, il faudrait commencer peut-être à le protéger, surtout s'il est en pot. On va protéger le pot, essayer de le tirer contre la maison. Si vous avez un local pour les géraniums qui est hors gel, c'est encore mieux. Maintenant, Quand on a un figuier en pleine terre, il faudrait éviter de protéger la partie aérienne qui va peut-être casser sous le poids de la neige avec la protection, ou de pailler la racine. Ça pourrait être une bonne idée, mais en fait, le paillage il va garder l'humidité dans le sol, ce qui fait que quand des gros gels vont arriver, ça pourrait faire beaucoup plus de dégâts. Maintenant, si un figuier il gèle complètement durant l'hiver, il ne faut pas trop se précipiter. En printemps, en général, on le voit repartir depuis la base et il pousse super vite.
Alors finalement, cet arbre venu du Proche-Orient est quand même très très solide.
Oui, il est très solide. Bon, ils ont aussi des endroits où il y a des températures assez fraîches, donc c'est peut-être dû à ça.
On va parler de l'arrosage aussi. Alors là, vous avez dit avec le paillage, il faut faire attention parce que ça peut rendre les racines humides et faire geler. Mais est-ce qu'en général, durant l'année, il a besoin d'être arrosé?
Alors en pot, il aura forcément besoin d'être arrosé, surtout pendant les périodes sèches en été. Là, il faudra vraiment faire attention et bien arroser. Par contre, il va détester les excès d'eau aussi. Donc là, il ne faut pas que l'eau stagne dans la soucoupe du pot. Il faut que le sol se ressuie entre deux arrosages, donc qu'il sèche. Et là, le meilleur moyen de contrôler ça, c'est quand même de mettre le doigt dans la terre et de contrôler si on sent l'humidité ou pas.
Les jardinières.
Deuxième partie des jardinières. Et ce matin, nous sommes en compagnie de Jordi González, horticulteur et propriétaire du Jardin des Senteurs à Neuchâtel.
Et on attend vos questions jardinage, appelez-nous au 0900 70 20 20 et vous parlerez en direct avec Jordi. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Ou alors nous écrire un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom. Et vous nous envoyez ce message au 939.
Jordi, ce matin nous parlons des figuiers, cet arbre qui nous vient du pourtour méditerranéen. Alors on a parlé de sa plantation, on a parlé de son arrosage. On va parler maintenant un peu de la taille du figuier. Est-ce qu'il faut le tailler, ce figuier ?
Oui, bien sûr qu'il faut le tailler, le figuier. On ne le taille pas comme les autres arbres fruitiers classiques. On va le tailler un petit peu différemment, on va le tailler un peu plus tard. D'ailleurs, on commence à tailler au début du printemps, à partir du 10 mars environ. Il faut toujours avoir les risques de gelée qui sont écartés, enfin de gros gel. Il faut le faire en dehors des périodes de gel, évidemment. Ensuite, on va différencier les bifères des unifères qui ne vont pas se tailler pareil. Parce que le bifère, il a déjà sur ses branches des ébauches de fruits, enfin de figues pour l'année en cours. Donc il faudra tailler moins fort que l'unifère, si on veut garder la première récolte de figues. Ensuite, dans les figuiers, on va surtout supprimer ce qui nous dérange. On va essayer de supprimer des branches entières, pas la moitié de la branche. Et puis, ça, on peut aussi tailler un petit peu, enlever quelques figues sur les bifères, pour gagner en précocité sur ces figues fleurs.
Justement, Jordi, on a reçu une question d'Anne de Courfèvre qui nous dit « Je possède un figuier plein de figues, mais elles ne viendront pas à maturité. Quand puis-je le tailler? Il devient trop grand. » Est-ce que quand on a justement ces fruits, il faut les enlever ou on peut quand même couper les branches où les figues ont poussé?
Alors, à sa place, moi, je laisserai les figues dessus parce que déjà, elles ont peut-être une petite chance de mûrir si tout d'un coup, il revient. Enfin, ce week-end, il fait beau, par exemple, donc peut-être qu'elles vont déjà commencer à mûrir. Ensuite, ce qu'elle peut faire, c'est pincer le bout des branches en supprimant quelques figues. Et là, ça va aider les autres à venir à maturité plus rapidement. Maintenant, il ne faut pas qu'elle le taille maintenant parce que c'est mieux d'attendre le printemps prochain pour tailler le figuier parce que ben, c'est pas bien de le tailler à l'entrée de l'hiver.
Et puis, on a parlé de la taille, mais peut-être il y a des maladies qui existent et qui pourraient attaquer les figuiers. À quoi faut-il faire attention ?
Alors, en réalité, il y a très peu de maladies qui s'attaquent aux figuiers. On aurait celle qu'on voit le plus fréquemment, c'est le chancre bactérien, ça s'appelle, mais c'est un champignon qui s'attaque au bois. Alors, ce chancre, il ne va pas tuer l'arbre, il va juste l'affaiblir. Mais on peut l'éviter assez simplement, on ne peut pas le curer, on ne peut pas l'enlever une fois qu'il est là, le chancre. On peut juste l'éviter en taillant comme il faut déjà. C'est du coup tailler pas des branches qui sont trop grosses, moins de 15 mm. Il faudrait tailler hors période où il fait froid ou où il pleut par exemple. Il faut tailler si possible en biais pour que l'eau ne puisse pas stagner sur les plaies de taille. Il faut aussi tailler le plus proche possible du bois au niveau de l'œil. Comme ça, ça aide à cicatriser et à ne pas faire rentrer le chancre. Après, on a des trucs qui ne sont pas encore ici. On espère qu'ils arriveront jamais. Et sinon, on aurait dans une moindre mesure des attaques de cochenilles, de pucerons, mais ça en général, on laisse faire la nature, elle fait très bien son travail.
Jordi, vous nous avez parlé du figuier. Alors, il y a beaucoup de points positifs sur cet arbre, hein. Il est résistant, il fait sa vie, tout va bien. Vous, pourquoi cette passion pour le figuier ?
Alors, j'ai pas vraiment eu le choix au début parce que de toute façon, il y avait des figuiers sur l'exploitation où je travaillais, qu'on a repris maintenant avec Rebecca. Et en fait, je trouve que c'est un arbre assez magnifique. Il a pas mal de, il revient pas mal dans l'histoire de l'humanité. Déjà, c'est l'arbre sous lequel il y a la louve qui a couvé Romulus et Rémus pour Rome. C'est l'arbre qui en fait est pris dans la Bible pour la feuille de vigne. En fait, c'est une feuille de figuier d'Adam et Ève. Je trouve qu'il y a quelques petites histoires comme ça qui sont assez rigolotes. Et en fait, c'est aussi des trucs qu'on connaît moins ici et qui sont assez passionnants à faire, je dirais.
7h, 8h, les jardinières.
Il est temps de répondre aux questions de nos auditeurs chez les jardinières. Nous sommes toujours en compagnie de Jordi González, horticulteur à Neuchâtel. Vous nous avez parlé de figuiers et ça tombe bien parce que Eric de Genève a une question à propos de ces figuiers. La voici. Bonjour, nous avons planté deux figuiers il y a 2 ans, mais ils ne poussent pas beaucoup. Pouvez-vous nous dire après combien d'années ils arrivent à maturité et commencent à donner des fruits ? Merci beaucoup.
Alors, pour les figuiers, c'est assez rapide, c'est pas comme les autres fruitiers, justement. Ils arrivent à maturité très vite, ils peuvent donner à partir de la 2e année en général. Souvent, les plants qui sont achetés en jardinière, ils ont déjà aussi quelques années, donc ils pourraient donner des fruits même la première année qu'ils sont plantés. Ce qui peut arriver dans ces cas, quand on n'a pas de figues, ça pourrait être parce qu'il n'y a pas assez d'engrais dans le sol, par exemple, donc il faudrait bien engraisser le sol. Le figuier, il faut savoir qu'il aime beaucoup le potassium, parce qu'en fait, la figue, ce n'est pas un fruit, mais c'est une fleur. Et du coup, elle a besoin de potassium pour pouvoir mûrir et puis qu'on puisse la manger, justement.
Merci beaucoup pour vos conseils, Jordi. On va enchaîner avec une question de Julien de Douane. Bonjour, j'ai un plant de courge, donc de butternut, qui pousse bien, mais certaines courges jaunissent puis deviennent brunes et flétrissent. Maintenant, même les nouvelles courges sont déjà jaunes quand elles commencent à pousser. Le plant globalement semble en bonne santé. Les plus grandes courges font environ 30 cm de long et sont encore bien vertes. Il y a juste quelques-unes des premières feuilles qui sont jaunies et se sont flétries. Y a-t-il un moyen d'éviter ce jaunissement des courges ? Merci pour vos conseils.
Alors, par rapport à la photo que je vois là, on dirait que c'est une courge qui a été mal fécondée. Et je pense que c'est assez normal. On arrive à la fin de la saison. Les abeilles, elles sont moins de sortie, d'autant plus la semaine passée quand il a fait assez froid. Je pense que du coup, il faut plusieurs passages de pollinisateurs dans la fleur pour que ça puisse se polliniser correctement. Mais ça pourrait aussi venir d'un virus, d'un champignon ou bien d'autres choses. En fait, c'est assez difficile à dire comme ça.
Et puis pour donner une chance aux autres qui ne sont pas encore mûres, celle-là qui est toute flétrie, on la retire ?
Oui, et puis je supprimerai d'ailleurs une bonne partie de la plante en fait, jusqu'aux premières courges pour faire vraiment pousser les courges qui sont presque mûres à mûrir.
Et puis on lui souhaite des bonnes soupes à Julien. On va passer à une question de Jacqueline qui nous dit « Bonjour, pouvez-vous me renseigner sur la meilleure façon d'hiverder mon lantana qui est en pot et s'il faut l'arroser en hiver, mes lauriers supportent bien la température de mon local qui est hors gel. Merci pour vos précieux conseils qui m'aident beaucoup. Belle journée à vous tous. » Alors Jordi, que doit faire Jacqueline de son lantana ? Déjà, qu'est-ce que c'est un lantana ?
C'est un petit arbuste méditerranéen à fleurs, c'est très joli d'ailleurs, mais du coup ça supporte pas le gel, c'est un peu le problème avec ces plantes méditerranéennes. Alors si les lauriers vont bien dans ce local, je pense que l'antana ira aussi très bien. Il faut un petit peu l'arroser pendant l'hiver, mais toujours y aller avec parcimonie et bien laisser sécher la terre entre deux arrosages.
Merci beaucoup Jordi. On va encore enchaîner avec cette question signée Véro. Bonjour, l'année dernière j'ai acheté un myrtillier déjà grand et j'ai fait un trou d'environ 80 cm de diamètre dans lequel j'ai mis de la terre de bruyère et de la corne. J'ai eu de magnifiques et gros fruits en abondance, mais cette année je n'ai pas eu de fleurs, donc pas de fruits. Que puis-je faire ?
Alors déjà, il faudrait le tailler, mais juste après la floraison normalement, donc là elle pourrait commencer à le tailler déjà. Ensuite, la corne, ça pourrait être une bonne idée, mais en fait, c'est un engrais qui est très azoté, donc ça va pousser la pousse de l'arbre, mais ça va pas le faire fleurir vraiment. Donc il faudrait plutôt avoir un engrais complet avec tous les éléments nutritifs qui doivent aller pour ça. Ensuite, on a quand même de la terre calcaire hein, ici, et c'est quand même assez problématique avec les myrtillers, même si ce genre de myrtillers, ils supportent un petit peu mieux la terre calcaire. Donc il faut continuer à apporter de la terre de bruyère et le tailler, comme j'ai dit, engraisser quoi.
7h, 8h, les jardinières.
Il est presque l'heure pour les jardinières de quitter le potager. Ce matin, nous avons parlé de figuier en compagnie de Jordi. Vous pourrez réécouter d'ailleurs ses conseils en cours de matinée en podcast sur notre site. Alors Jordi, nous sommes aux portes de l'automne. L'automne commence officiellement demain. On a les grisailles le matin, hein, les premiers brouillards matinaux, les températures un peu plus fraîches. Du coup, est-ce que vous avez quelques conseils à donner à nos jardiniers, histoire de passer en du temps en extérieur par cette belle journée?
Alors oui, c'est vrai qu'on se sent déjà en automne, hein, presque. Mais c'est vrai que ce week-end, il va faire beau, donc on peut faire plein de choses au jardin, que ce soit récolter les derniers légumes ou bien les premiers légumes d'hiver. On peut aussi... les fruits comme les pommes, les poires, il y a un tas de trucs qui arrivent à maturité maintenant. Les figues aussi, si vous avez un figuier d'ailleurs, c'est pile la bonne période. Mais enfin bref, il faut voir si elles sont mûres ou pas. Comme je le disais au début d'émission, on peut commencer à arranger le jardin pour l'hiver. C'est jamais trop tôt de commencer un petit peu à arranger parce qu'après il fait froid, on n'a plus envie de sortir dans le jardin. On peut gentiment couper ce qui reste des vivaces. Il faut ranger, faire des tas par exemple pour les hérissons pour l'hiver. Enfin, ils adorent ça. Et puis voilà quoi, c'est un peu.
C'est une petite question qui revient souvent. Là, les dernières tomates, on les ramasse. Bon, certaines sont encore vertes. Les pieds de tomates, quand ils sont en bout de vie, on les arrache, on les laisse comme ça pour l'hiver. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, c'est mieux de les arracher, de les mettre dans le compost, parce que comme ça, ça va refaire la terre et puis ça va renourrir le sol après. Ça sert à rien de les laisser sur place. En général, de toute façon, ils vont pas avoir le temps de vraiment bien se décomposer pendant l'hiver. Et du coup, ça va être plus embêtant au printemps qu'autre chose. On peut se mettre des engrais verts maintenant. Enfin, voilà quoi. On a un tas de possibilités.
Merci beaucoup, Jordi Gonzalez. On rappelle que vous êtes horticulteur et producteur et responsable du jardin des Senteurs à Neuchâtel. Merci pour votre visite et puis à bientôt chez les jardinières.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Jordi. Et puis samedi prochain, nous serons en compagnie de Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Et puis comme d'habitude, vous avez toute la semaine pour nous faire parvenir vos questions, par exemple en remplissant le formulaire sur notre site internet ou alors par SMS, vous tapez jardin suivi d'un espace et vous nous l'envoyez d'un espace et de votre question, c'est mieux, sinon ça sert à rien. Vous nous l'envoyez au 939. On vous souhaite un bon week-end Brian.
Bon week-end Mylène.
Bon week-end à vous tous.
Et bon week-end à toutes et à tous. À bientôt, à samedi prochain.
7h, 8h, les jardinières.